la matinée, les rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant le point et l'heure de ralliement, avant qu'en tout début d'après-midi, les premières voitures s'arrêtent au pied de l'Arc de Triomphe.
Convoi de la liberté, convoi de liberté, il y en a marre.
Beaucoup de drapeaux bretons, occitans, normands, certains montent directement sur le toit de leur véhicule.
Il faut que les restrictions sanitaires, ça s'arrête, il faut que les gens puissent vivre.
Ce sont des cons,
propagande.
C'est de la merde, ce sont des gouvernants de merde, ils nous mentent sur tout.
Février dernier, les convois de la liberté atteignent l'Arc de Triomphe sur Twitter et sur Facebook. La tension est à son comble. Les antipasses vont-ils prendre la capitale? Dans leur laboratoire, une équipe de mathématiciens cartographie ce moment de suractivité sur les réseaux sociaux et s'interroge. Quel compte s'emploie à relayer tel ou tel message et dans l'intérêt de qui? Les algorithmes favorisent-ils la montée de telle ou telle colère et dans les intérêts de qui? Les robots viennent-ils grossir les rangs des insurgés et dans les intérêts de qui? Des puissances étrangères ont-elles intérêt à semer la discorde chez nous en France? Les réseaux sociaux sont-ils la meilleure arme des Russes et de la Chine cherchant à reconfigurer l'ordre mondial? J'ai lu pour vous Toxic Data tout hier. Très simplement expliquer comment les mouvements d'opinion sont aujourd'hui hautement manipulés et manipulables, amplifiés sur les réseaux sociaux, au point que nos démocraties peuvent y laisser leur peau.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour David Chavalarias.
Bonjour.
Vous allez bien? Parce que moi, depuis que j'ai fini votre livre, pas très bien. Franchement, pas très bien.
Non, autant que se faire se peut.
C'est ça, c'est très angoissant. C'est très simplement expliqué, c'est très pédagogique, c'est très accessible à tout le monde. Et bref, on va en parler ensemble. Je vous présente, parce que c'est important de dire d'où vous parlez. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHSS et vous dirigez l'Institut des systèmes complexes de Paris. En fait, c'est une recherche interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous êtes mathématicien de formation, et puis vous vous êtes diversifié en sociologie, en sciences cognitives, et vous, justement, vous travaillez à l'interface entre les mathématiques et les sciences que je viens de citer. En fait, votre travail avec votre équipe, c'est de cartographier ce qui se passe sur Twitter et sur Facebook, en gros. C'est ça à peu près?
C'est ça, en gros, donner du recul sur toutes les dynamiques collectives auxquelles nous prenons part et qui aussi nous influencent dans notre vie quotidienne.
C'est ça. Alors quand on dit cartographier Twitter, cartographier Facebook, vous voulez donner quelques chiffres pour montrer la puissance de ces outils numériques, en tout cas la rappeler à
Alors,
les éditeurs?
Pour rappeler, par exemple, donc on suit depuis 2016... l'espace politique sur Twitter, donc c'est pas tous les Français, c'est vraiment les leaders politiques, mais rien qu'en suivant les leaders politiques et les personnes qui s'agitent autour d'eux, on a plus de 400 millions de tweets et 15 millions d'utilisateurs qui ont interagi avec un dispositif de suivi de ces échanges politiques sur Twitter, que après on peut analyser pour donc identifier les mouvements d'opinion.
Voilà, un Twitter, 200 millions d'utilisateurs actifs en 2021, Facebook, 2,8 milliards d'utilisateurs, c'est 61% des terriens qui ont accès à Internet, vous le rappelez. Regardez une crise comme ce qui vient de se passer là très récemment, en Guadeloupe par exemple, à nouveau autour de la question du vaccin et du pass sanitaire.
On a l'impression d'être le déchet de la métropole, et ça suffit.
Dans des cas comme ça, ce qui prime, c'est le dialogue, c'est de mettre les gens autour d'une table.
C'est l'ensemble des travailleurs dans tous les secteurs d'activité qui sont mobilisés pour dire non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire.
Je suis là en tant que soignante, en tant qu'individu qui revendique le droit de faire le choix de ce qu'il prend comme médicament.
C'est un choix et qu'on respecte mon choix et qu'on respecte le choix de tous ceux aussi qui ont décidé de ne pas se faire vacciner.
Ce que votre livre fait bien comprendre, c'est que les crises, elles sont bien réelles. Le malaise social, il est bien réel. La peur du virus, la peur du vaccin, elle est bien réelle. Le chômage et la pauvreté, les injustices, les inégalités en France et ailleurs sont bien réelles. Ce que vous étudiez, c'est la façon dont tout cela peut être amplifié et manipulé dans la manière dont cette colère s'exprime sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il y a des crises qui se produisent en France, donc on vient d'en avoir plusieurs, des acteurs soit intérieure, souvent du côté de l'extrême droite, soit extérieure. Et là, on soupçonne fortement la Russie et la Chine. Enfin, même, on a démontré certaines choses, ouais. Pas moi, mais des services de renseignement, utilisent ces crises pour les amplifier, les exacerber. Et comme on vient de l'entendre dans l'extrait, essayer de faire penser aux gens qui vont manifester que tout le monde pense la même chose et que tout le monde est du même côté, mais sans aucune nuance.
C'est ça. Alors, on va peut-être commencer par essayer de faire comprendre à nos auditeurs comment on peut manipuler l'opinion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on appelle l'astroturfing, David Chavalarias?
Alors, l'astroturfing, c'est une technique qui consiste à faire croire qu'il y a plus de monde qui défend une cause que ce qu'il en est. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans une situation d'incertitude, en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal, on va regarder ce que pensent les gens qui sont autour de nous. Et donc, si on arrive à manipuler cette foule qui est autour de nous, si on arrive à nous faire croire qu'il y a plus de gens qui pensent A plutôt que B, à ce moment-là, on va pouvoir faire pivoter, basculer l'opinion en faveur de A plutôt que B.
C'est ça. Alors, l'astroturfing, c'est tout simplement de la tricherie. On fait gonfler les effectifs, on fait gonfler les chiffres, on fait monter des tendances sur les réseaux sociaux. Comme ça, ça impressionne tout le monde et puis ça donne envie à tous les moutons de suivre. C'est pas nurge.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est pas forcément je prendrai pas le terme mouton parce que c'est vraiment un réflexe naturel humain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'espace numérique, c'est très facile de démultiplier les présence, y compris les présences fausses, de démultiplier l'activité, et que donc dans les espaces numériques, c'est très différent de les espaces physiques.
C'est ça.
À chaque fois qu'on est dans l'espace numérique, en fait, on applique les réflexes qu'on a dans l'espace physique, alors qu'en fait, on devrait être beaucoup plus méfiant, car beaucoup de choses que l'on voit, en fait, sont juste fabriquées.
Alors, fabriquées comment ? Comment et par qui ? Racontez-nous ces robots qui imitent à la perfection nos tweets et nos posts sur Facebook, au point qu'on croit réellement que ce sont d'autres utilisateurs de Twitter, d'autres utilisateurs de Facebook qui se joignent à nous, mais pas du tout.
Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, effectivement, c'est des robots, la possibilité de mettre des programmes informatiques en ligne qui vont activer des comptes Twitter ou des comptes Facebook et faire croire qu'ils sont des vrais individus. Et le moment venu, ils vont diffuser des informations qui vont servir les intérêts des gens qui les ont achetés ou qui les pilotent.
Et ça, c'est des intelligences artificielles.
Alors, il peut y avoir dedans, effectivement, des intelligences artificielles de plus en plus. Avant, on payait des gens en Inde, au Bangladesh, etc. On leur envoyait des messages et diffusait, ils le faisaient. De plus en plus, donc, il y a des programmes assez sophistiqués qui permettent de piloter à distance des centaines de comptes et de les nourrir en fait avec des messages dont on a l'impression qu'ils sont générés par des humains alors qu'en fait ils sont générés par des machines.
Et vous expliquez, jusqu'à présent on reconnaissait les humains et on les différenciait des robots qu'on appelle des bots parce que tout simplement ils se présentaient sur Twitter ou sur Facebook avec une photo de profil. C'est moi en vacances en train de siroter un Schweppes. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a des intelligences artificielles qui fabriquent de faux visages.
Tout à fait. Donc l'intelligence artificielle a beaucoup évolué en 4-5 ans.
Oui.
Et maintenant, donc, on peut fabriquer des faux visages, on peut même fabriquer des fausses vidéos, ça s'appelle les deepfakes. Et on peut fabriquer des faux textes, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer du texte dans le style, par exemple, de la propagande de la Russie, mais entièrement original. C'est-à-dire que vous voyez passer ce texte-là, vous cherchez dans Google, vous ne trouvez pas de citation ailleurs, donc vous dites ah bah, c'est quelqu'un qui l'a vraiment écrit, alors qu'en fait, c'est entièrement généré par une intelligence artificielle.
Et récemment, on a découvert, par exemple, des faux profils d'Ukrainiens sur les réseaux sociaux.
Ouais, exactement. Il y a un Ukrainien qui se présentait comme Vladimir Bondarenko, qui était présenté sur un média qui s'appelait Ukraine Today, en Russie. Et donc, il se présentait comme un Ukrainien, ancien ingénieur d'aviation, est très remonté contre le gouvernement ukrainien. Et en fait, cette personne-là n'a jamais existé. Le profil était faux, les dires étaient faux, la photo, donc l'image était fausse. Et même ses co-workers, enfin ses collègues de bureau, étaient faux. C'est-à-dire qu'ils avaient créé aussi des faux comptes qui s'étaient présentés comme ses collègues de bureau pour légitimer ce profil-là, alors qu'en fait, ses collègues également étaient complètement faux.
C'est ça. Et ça, c'était une opération purement stratégique, une opération purement politique qui était destinée à donner une mauvaise image des Ukrainiens, les rendre détestables.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une opération qui a été faite très récemment, il y a quelques jours, par le Kremlin, dans son opération pour discréditer l'Ukraine et pour montrer qu'effectivement, il y avait des Ukrainiens qui étaient contre le gouvernement et que légitimaient en gros l'opération de dénazification.
Vous racontez aussi, David Chavalarias, comment une agence basée en Russie, qui s'appelle IRA, IRA, ça n'a rien à voir avec les mouvements irlandais, IRA, IRA, c'est donc une agence russe qui manipule des opinions à l'étranger depuis la Russie. Vous racontez comment, en 2016, à Houston, on est à quelques semaines de l'élection, à quelques mois de l'élection américaine où Donald Trump va triompher, comment à Houston, depuis la Russie, on a organisé une manifestation et une contre-manifestation qui ont failli dégénérer. Hein. Il y a eu la police, le FBI, une menace d'attentat. Tous les médias s'en sont mêlés. Tout a été organisé depuis la Russie. Racontez.
Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est encore les miracles de l'espace numérique. C'est-à-dire que vous pouvez être présent sur un territoire étranger sans y être physiquement présent. Mmh. Et donc, en 2016, donc l'IRA, c'est très concrètement, hein, c'est un édifice à Saint-Pétersbourg avec plusieurs centaines de personnes qui travaillent 24 heures sur 24 à faire de la désinformation dans les différents pays et qui se redéploient en fonction des intérêts du Kremlin. Et donc, en 2016, Poutine avait comme projet de mettre Donald Trump au pouvoir, enfin, en tout cas de l'aider à conquérir le pouvoir. Et donc, ils ont organisé des centaines d'événements de ce type-là où... au même moment, ils essayaient d'exacerber les tensions sociales. Et par exemple, là, c'était un exemple où une bibliothèque allait s'ouvrir dans un centre d'études islamiques.
Oui. À Houston.
Et à Houston. Et donc, où des pages Facebook avaient été créées par le Kremlin. L'un, c'était pour défendre, en fait, la création de cette bibliothèque et défendre le savoir islamique aux États-Unis. Et l'autre, c'était présenté comme les patriotes des États-Unis qui essayaient de lutter contre cette invasion de la culture islamique. Et donc, ils ont appelé à des événements sur Facebook. Hein, donc, c'est la fonction événements sur Facebook. Et donc, des gens se sont inscrits. Des gens sont rendus sur place pour manifester. Et bien en fait, les organisateurs n'étaient pas là, ils étaient à Saint-Pétersbourg.
C'est ça. Et vous dites que ça a été extrêmement documenté par les chercheurs.
Bien sûr.
Hein, c'est-à-dire la façon dont nos comportements numériques, ce à quoi on est exposé sur les réseaux sociaux, a une influence directe sur notre manière de nous comporter dans la vie réelle, de parler, de s'exprimer, d'échanger avec les autres. Une incidence directe.
Bien sûr, oui. Ça. Alors, il y a... Faire la liste serait un petit peu longue, c'est pour ça qu'il y a un livre, mais ce que l'on peut dire, c'est que...
On vous fait un digest
de Toxic Data,
je redis que Toxic Data est très facile à lire, très accessible
bien
pour
sûr,
tout le monde.
Bien sûr, je l'ai vraiment écrit pour ça, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que de plus en plus, on s'informe sur Internet, il y a certaines tranches d'âge qui s'informent quasiment exclusivement sur Internet, et donc les actions qu'on va prendre dans le monde réel va vraiment dépendre de notre perception du monde et donc de l'information qu'on a prise sur Internet. Et ça, donc, ça va agir énormément sur les mouvements sociaux de manière assez globale, et ceux qui arrivent à manipuler l'information sur Internet, notamment par ces techniques d'astroturfing, arrivent à manipuler aussi donc, les mouvements sociaux. Il y a d'autres choses aussi qui se passent sur le numérique, qui sont assez différentes en ligne, c'est qu'il y a toute cette couche d'algorithmes de recommandation hein, qui vont nous proposer des
contenus. Complètement opaque, dont on ne connaît pas la recette.
Exactement, donc, puisque tout est fermé, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, quand vous êtes sur Facebook, et que vous avez donc en moyenne, on a 338 amis, qui est beaucoup, on ne peut pas lire tout ce qu'ils écrivent chaque jour. Et donc, on va lire ce que Facebook va nous proposer dans notre fil d'actualité. Or, Facebook va choisir ce qui lui est intéressant pour Facebook de nous proposer. Et ce qui va être intéressant, ce sont tous les contenus qui vont créer de ce qu'ils appellent de l'engagement, c'est-à-dire du clic, des commentaires, etc. Or, il se trouve que d'un point de vue cognitif, on est beaucoup plus attiré par des contenus qui représentent un danger imminent, une menace négative que par les autres. Mmh. Et donc, il y a une espèce d'effet d'entraînement où les plateformes apprennent qu'on est sensible à ces contenus négatifs et vont nous en servir encore plus. Et donc, ça veut dire que dans l'espace numérique, les informations qui nous sont proposées sont beaucoup plus négatives que ce qu'elles devraient être en moyenne dans l'espace physique.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le monde tel qu'on le voit à travers Facebook et Twitter est beaucoup plus polarisé, beaucoup plus radical, beaucoup plus énervé, beaucoup plus en colère.
Exactement.
Et qu'il y a des vraies colères, des saines colères, comme disait Ségolène Royal. Il y a de saines colère, mais qu'elles sont déformées, amplifiées et parfois de manière très artificielle. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est les Kremlin Papers? Parce que c'est le scoop du Guardian en Angleterre et peut-être qu'on l'a moins compris en France. Alors que vous traduisez quelques documents que s'est procuré le Guardian et c'est totalement vertigineux.
Alors, tout à fait. Alors, le Kremlin Papers, déjà, c'est récent, hein, c'est cet été. Hein, et donc, c'est le compte-rendu d'une réunion qui s'était tenue au Kremlin à l'initiative de Vladimir Poutine, qui avait rassemblé l'ensemble de ses chefs de sécurité et de son gouvernement. Officiellement, c'était pour parler de la Moldavie. Il y a des photos sur le site de l'Ukraine où on le voit en train de parler. Donc, la réunion a vraiment eu lieu. Mais le compte-rendu qui a fuité donc via le Guardian disait tout autre chose. C'est-à-dire que le but de cette réunion, c'était de déstabiliser les USA en faisant accéder au pouvoir Donald Trump, qui était jugé comme déjà pro-Poutine, mais aussi imprévisible, plus impulsion, etc., anti-OTAN. Et donc, l'objectif, c'était de dire, à partir de maintenant, on va agir sur l'espace informationnel des USA, ça veut dire les réseaux sociaux, pirater...
Pour affaiblir leur démocratie. Pour délégitimer le pouvoir politique, délégitimer les médias. Voilà. Et alors, je cite votre livre, David Chavalarias, le Guardian rapporte d'autres mesures actives mentionnées dans ce document, citons-les, creuser le fossé politique entre la gauche et la droite, agir sur l'espace médiatique et les circuits de circulation de l'information, instaurer un climat anti-système, insérer des virus médiatiques dans la vie publique américaine, capables de s'auto-entretenir et s'auto-reproduire, et dont le but serait de modifier la conscience collective, en particulier dans certains groupes. Tout ça, c'est formulé par les Russes. C'est totalement terrorisant.
Oui, alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc, ça, c'est une fuite des Kremlin Papers, mais ça a été vraiment documenté. C'est-à-dire qu'après coup, après la campagne de 2016 de Donald Trump, il y a eu des commissions sénatoriales pour étudier les ingérences. Et tout ça, ils ont réussi à obtenir les données de Facebook et de Google et de Twitter, que normalement elles gardent secrètes. Et ils ont montré qu'effectivement ça s'était réalisé. C'est-à-dire qu'ils ont payé des publicités pour faire ce genre de division, etc.
Alors, payer des publicités. Vous avez aussi une analyse extrêmement intéressante du ciblage publicitaire sur Facebook et Twitter. Donc il faut se rappeler que Facebook, il n'y a pas forcément, de la volonté de Mark Zuckerberg de modifier ou de tenir dans sa main l'ordre mondial, il y a la volonté de gagner énormément d'argent.
Exactement.
Donc, Facebook recueille sur nous une quantité astronomique de données qui sont stockées, qui sont analysées, qui sont archivées et qui servent ensuite à nous envoyer de la publicité. Vous vous dites, l'extrême danger de ces plateformes, c'est qu'elles sont capables de cibler leur publicité comme des frappes chirurgicales, comme des petites bombes qui iraient envoyées depuis une puissance étrangère, cibler exactement un village, voire un bâtiment dans un village.
Oui, exactement. Donc en fait, toutes ces données qui sont accumulées sur nous sont faites pour nous faire nous vendre des choses, nous vendre des déodorants, du shampoing, des chaussures,
oui.
etc.
Oui.
Sauf que en fait, l'offre publicitaire de Facebook est ouvert à tout le monde. Et donc, les hommes politiques et les puissances étrangères l'utilisent allègrement. Et pour quelques centaines d'euros, vous pouvez diffuser à des milliers de personnes une annonce très particulière en ciblant très précisément soit un lieu géographique. Donc, vous pouvez, par exemple, faire une révolte dans telle banlieue pour que telle chose ait lieu, soit sur des catégories de population. Et le danger, en fait, c'est que non seulement vous pouvez pousser certaines personnes à être plus en colère qu'elles ne le sont, mais en plus, donc vous pouvez monter différentes populations les unes contre les autres en donnant des informations contradictoires. Et c'est aussi la fin du discours politique parce que vous allez faire une campagne politique par ciblage publicitaire en disant A à celui qui veut entendre A et non A. Donc le contraire de A, celui qui va attendre le contraire de A, et personne ne peut vérifier en fait la cohérence de votre discours.
C'est ça. Et alors, j'aimerais comprendre pourquoi vous voulez supprimer le deuxième tour des élections présidentielles.
Alors,
nos mathématiciens.
Alors c'est une autre histoire. C'est surtout le mode de scrutin que je pense qui est très inadapté. C'est-à-dire que le mode de scrutin actuel où on ne donne qu'une seule voix à une seule personne et où on a ces deux tours fait que alors il y a plusieurs principes. Je ne vais pas m'étendre, mais notamment il y en a un qui est que ça ne respecte pas le principe du rejet majoritaire. C'est-à-dire qu'une personne peut passer au deuxième tour alors qu'elle a que 20% de support, et au deuxième tour, si vous avez deux personnes qui ont que 20% des supports et qui ont détesté par toutes les autres, et ben elles peuvent quand même être élues alors qu'en fait elles sont rejetés par 70-80% des Français. Et ça, c'est un gros problème parce que vous pouvez très bien imaginer que des gens avec des positions très extrêmes arrivent à avoir 20 ou 30% de support et arrivent à conquérir le pouvoir de cette manière-là.
C'est ça. Et vous montrez comment l'astroturfing et comment toutes ces campagnes de manipulation de l'opinion cherchent à faire accroître l'abstention. Forcément à porter un candidat, mais plutôt l'abstention.
C'est ça. C'est-à-dire qu'étant donné cette configuration-là, une stratégie très efficace pour des gouvernements comme par exemple la Russie, c'est d'avoir une campagne très hostile et polarisée en amont du premier tour, ou avec plein de communautés qui ne peuvent plus après du tout s'entendre, et arriver à faire passer au premier tour l'une de leurs favoris, ou l'un de leurs favoris, et après au deuxième tour, tous ceux qui n'ont pas leur candidat au deuxième tour vont plutôt s'abstenir, et ça va être un vote entre deux fractions. Quoi.
Voilà, vous venez d'entendre David Chavalarias, mathématicien qui publie Toxique Data chez Flammarion, comment les réseaux manipulent nos opinions. Il y a tout un tas d'images, de cartographies illustrées. Et vous pouvez aussi, avec un QR code, entrer dans les cartes que produit l'équipe de David Chavalarias. Voilà. Merci d'avoir été mon invité ce matin.